Donc là, on attend un petit SMS de notre indicateur local qui est Émilie Moidon, qui va essayer de nous présenter Jeannette. Alors là, c'est le suspense, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain? On sait pas quoi.
Mais c'est ça. Voilà, le voilà. C'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Alors quand il est blanchi, donc c'est ça.
Et alors qu'est-ce que vous en faites après vous de cette algue?
Et ben, quand il est blanc comme ça, ben, on peut le garder 2 ans facilement à la maison. Puis alors ben, on fait bouillir du lait, on le sucre aussi. Quand ça bout, on met une poignée de goémon. Et bon alors on voit la cuillère, c'est comme un entremets. Quand le lait devient un petit peu épais, et bon donc c'est bon quoi. Hein. Ça gélifie après quand ça devient froid. La gélatine qu'il y a dedans quoi. D'accord. Et qui forme le yaourt, si
j'avais
on veut.
J'avais une question quand j'ai essayé la dernière fois, parce qu'on enlève les algues.
Ah ben oui. Il y en a qui les mangent. Hein.
Ben oui.
Oui, j'ai mon voisin. Ben c'est bon, c'est sucré. Mon voisin, il est médecin, il mange, il aime bien.
L'objectif du projet Terre des Îles est de pouvoir suivre sur un tronc très long, qui va de la préhistoire jusqu'à nos jours, suivre des populations et voir comment elles exploitent les ressources qui vont s'échouer à chaque marée, et également ces ressources qu'on retrouve à marée basse. Donc le but est de voir à quoi ont servi toutes ces ressources qu'on peut trouver sur l'estran ou rejetées par la mer. Je m'appelle Catherine Dupont, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille au Centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire. Et je développe l'étude des coquillages et des crustacés qu'on trouve sur les sites archéologiques. Dans le projet Terre des Îles, nous sommes donc deux responsables. Je suis une des responsables, donc je représente la discipline qu'est l'archéologie. Et la deuxième personne est Christophe Serino, qui est historien dans l'équipe TEMOS.
Qu'est-ce que vous cherchez?
Des palous. Je recherche les trous, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand j'étais jeune, j'allais chercher pour un monsieur et il m'amenait en échange des fruits du continent. En échange.
Tu crois que...
Ah oui. Mais c'est plutôt de l'autre côté qu'on trouve les palous. Quoi. Oh là, je me lave les pieds.
Au départ, en fait, le projet avait une ambition de travailler sur beaucoup d'îles et finalement, l'île d'Édic est un concentré. Il y a énormément déjà de travail à réaliser sur ce site-là. Ce qui est intéressant sur Édic, c'est qu'au niveau archéologique, on va avoir en fait des sites de différentes périodes, donc qui vont de la préhistoire à la protohistoire. Et également, on a des anciens, donc des personnes qui sont nées sur l'île, qui n'ont quasiment pas quitté l'île. Et donc, c'est une spécificité de ce territoire. Une des spécificités aussi de l'île d'Élic, c'est que certaines personnes sont nées sur l'île et y vivent encore et ont connu finalement l'exploitation de ces ressources avant la guerre et donc avant une industrialisation massive. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on touche aussi les traditions au plus près. Ce qui est intéressant sur Édic, c'est qu'on peut voir Édic du continent. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des relations aussi constantes avec le continent. Également, donc, on peut voir en fait cette île d'Édic comme à la fois un isolat où les populations ont gardé certaines traditions, peut-être une forme de résistance à la nouveauté ou à d'autres modes de vie. Et également, on peut voir cette île comme une ouverture vers l'extérieur, à la fois parce que c'est une zone, là on, justement grâce aux historiens, on va pouvoir le voir, ça peut être une zone aussi de passage, parce qu'il y a eu énormément de commerce en fait, de la Méditerranée vers l'Atlantique, en allant jusqu'en Angleterre et jusqu'en Écosse, et ils se nourrissent aussi en fait, de pratiques extérieures. Donc ça c'est intéressant de voir en fait, comment des pratiques qui sont propres à l'île vont évoluer en fonction de ces influences extérieures. Donc ça c'est une grande partie aussi de notre projet. À l'échelle de la façade atlantique de la France, on a seulement 4 sites où on peut observer des populations qui vivent de la chasse et de la cueillette. Donc Edic est en cela très riche parce que c'est un des 4 sites où on peut observer ces chasseurs-cueilleurs qui ont vécu il y a 8000 ans. On les appelle des populations mésolithiques. Et également, le site d'Edic a défrayé la chronique. Hein. Vous avez des centaines d'articles sur Edic. Pourquoi ? Parce que vous avez un amas coquillé, donc une zone où les gens ont rejeté leurs déchets, mais également, c'est un cimetière. Donc vous avez en fait une nécropole donc préhistorique, et ce qui est très très rare au niveau aussi de son degré de conservation. Et là je dois rendre comme un hommage aux coquillages, parce que c'est grâce en fait au carbonate de calcium qu'ils ont et au fait qu'ils aient pu augmenter le pH et donc diminuer l'acidité qu'on a une conservation de ces populations. Et là à l'échelle de la génétique même européenne, c'est très très important parce que ça nous permet de décrire un profil génétique de populations qui ont vécu il y a 8000 ans. Alors également, ce qui est très très intéressant sur ces populations, c'est que on voit que ce sont des populations qui perdurent très longtemps en fait avec ce mode de vie en milieu insulaire, et on voit que en fait qu'ils vivent la mer et que ces ressources les ont sans doute aidés à perdurer et éventuellement à résister finalement à d'autres modes de vie qui vont consister à faire de l'élevage et de l'agriculture et de la culture de céréales. Edic n'a pas été choisi par hasard. En diachronie, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va travailler sur un amas coquillé, donc un dépotoir qui date d'il y a 8000 ans. Et actuellement, quand vous vous promenez en fait, sur le village, si vous regardez par terre, en fait, il est jonché de coquillages. Donc en fait, on va avoir des dépotoirs, finalement, des amas coquillés récents sur le village d'Edic. L'intérêt en fait, de pouvoir interroger des natifs, c'est qu'ils vont avoir en fait, une perception et une mémoire de l'exploitation des ressources marines avant la guerre, et c'est une époque en fait où les descriptions du village d'Edic montrent en fait des populations qui font en fait des ressources marines une force, et en fait c'est ce qui permet leur survie en fait. Si on fait le parallèle entre les amas coquillés archéologiques, donc préhistoriques, et ce qu'ont mangé les populations natives de l'île avant la guerre, finalement ce sont les mêmes espèces. Une espèce, un coquillage comme la bernique, la patelle, actuellement est très dévalorisée. Elle n'est plus commercialisée, en tout cas sur le territoire français, alors que ça a été la principale ressource des chasseurs-cueilleurs il y a 8000 ans. Et c'est une des espèces qui a permis la survie des populations sur Edic avant la guerre, et même pendant la guerre.
Alors ici à Edic, comment est-ce qu'on est marin-pêcheur ? Je veux dire, vous sentez chasseur quand vous êtes marin-pêcheur ou...
Oh non, mais ça suffit. On a appris ça à 14-15 ans, puis ça reste dans la peau, après c'est fini. On se casse pas la tête pour ça, on a appris ça comme ça avec nos parents, puis on continue ce qu'ils avaient fait.
Vous connaissez les fonds, vous savez là où il y a
le poste. À peu près, où on sait où on est, on va, on sait qu'il y a de la roche là, là, on sait qu'il y a du sable ici, on sait que c'est du galet, puis on voit comme ça, on sait bien, on sait où on va de toute façon.
Whoa!
Nous sommes sur le site archéologique de Port-Blanc. Donc c'est un site qui est daté de l'âge du fer, donc de la protohistoire, et il a été découvert suite à une érosion de la falaise. Donc c'est un site qui est encore actuellement visible et qui est fouillé par la mer. Et nous pouvons voir à la base de l'argile, en fait, bien orange, ensuite plusieurs niveaux de coquillages. C'est un site qui est bien calé chronologiquement de par la présence de céramique. Donc on a en fait une occupation qui s'étale de la Tène moyenne jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a un continuum et on voit à un moment donné quelles sont les ressources exploitées localement et également quelles sont les influences extérieures qui vont arriver. Donc là, c'est très très intéressant parce qu'on voit par exemple l'exploitation du colorant pour les coquillages. On va voir par l'étude des coquillages qu'il vient d'influence méditerranéenne. Également, on a aussi des amphores en fait qui viennent de Méditerranée. Donc on a pas mal en fait d'éléments qui montrent que ces sites sont clés dans les contextes qu'on peut avoir avec l'extérieur. Pour le projet Terre des Îles, le Port Blanc, c'est un jalon important en fait, de cette étude, puisque on est à une période où on n'a pas encore les textes, en tout cas de conservés en Bretagne. Donc là voilà, c'est seulement le site archéologique qui va nous permettre de décrire à cet instant donné le mode de vie de ces populations. Donc là on voit en fait déjà de par la maison, c'est que des gens ont habité et sont restés assez longtemps sur cette île. Mais là, c'est génial, parce qu'il y a on est venu. Donc là, nous sommes le 28 septembre 2023, nous sommes venus en juillet. Et on voit qu'en quelques mois, le site en fait change à chaque fois. En fait, c'est une nouvelle. La mère en fait est une très très bonne archéologue. Elle va fouiller par petites séquences l'accumulation. Et à chaque fois, on a l'impression de découvrir des nouvelles choses. Là, vous voyez des patelles en place. Enfin, et cette concentration de vestiges. Alors, ce qu'il faut voir. C'est que si vous prenez un seau en fait, de sédiments, vous pouvez en avoir pour un mois de travail. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on attend de voir s'il y a une autre structure massive pour pouvoir intervenir. Et d'ailleurs, à la base, je ne sais pas, il y a des choses que je n'arrive pas à lire en fait. Il y a des choses bizarres qui apparaissent. Une des choses que nous aimerions retrouver sur cet atelier, en fait, on a une exploitation du pourpre qui est à différentes périodes sur ce site-là. Et ce qui nous manque actuellement, c'est les outils qui ont servi à casser ces coquillages-là, ce sont des coquillages qui doivent être cassés un par un pour extraire le colorant. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé l'enclume et le marteau, on pourrait dire presque. Et également, on n'a pas trouvé les différentes étapes du processus qui vont suivre la cassure en fait, de la coquille. Voilà, comment on sait qu'il y a une glande colorante. Comment est-ce qu'elle a été extraite et quelle est-elle devenue après. Voilà. Là, c'est des questions, peut-être qu'il y a la réponse sur ce site archéologique, mais c'est vrai que là, à part l'apparition d'une structure, ça va être très compliqué. Il faut voir quand même qu'on est en milieu protégé, en zone protégée, avec un environnement tout à fait fragile. On a même des oiseaux qui actuellement nidifient sur le site, donc il va falloir faire le choix entre un patrimoine actuel de la biodiversité et le patrimoine passé. C'est vraiment des choses qui font partie en fait aussi du paysage des habitants de l'île. Donc là le projet pour ça est assez motivant parce que c'est un moyen pour les archéologues aussi de faire ressortir leurs travaux. On a beau faire des conférences, c'est toujours compliqué, et d'avoir un dialogue plus direct avec les habitants, ça permet aussi de les sensibiliser sur des choses en fait qu'ils ont vues quand ils étaient tout petits et qu'ils continuent à voir. Là, je vais refaire des photos parce qu'il y a vraiment des choses que je n'avais pas vues. Et maintenant qu'on se parle, là, j'ai un angle nouveau. Donc, il y a une autre partie de la macoquille que je n'avais pas vue. Et je vais m'empresser de le prendre en photo. En fait, il y a une partie de la falaise qui semble s'être éboulée depuis juillet. En tout cas, il y a eu un bon coup de vent qui a enlevé tout le sédiment qui était à la surface. On voit même des ossements, là. Tu vois qu'il y a des ossements qui dépassent de la coupe. Par rapport à juillet, il y a à la fois en fait, de l'argile qui apparaît de manière assez massive dans une zone avec une pierre qui est bien à plat. Et on a des ossements en fait, qui dépassent de la falaise. Là, ça veut dire que vu que les ossements dépassent d'à peu près 10 cm, ça veut dire qu'on a perdu plus de 10 cm depuis juillet déjà. Là. Donc ça donne aussi un état diagnostique du site. Je vais faire des photos pour ma collègue qui travaille sur les mammifères terrestres. Voilà. En général, on essaye de ne pas arracher les ossements des coupes parce que c'est interdit. Donc je fais des photos pour avoir un témoin de ce que je vois là. Je crois que ma collègue, elle va être verte, quoi.
Les populations du mésolithique, pour l'instant, toutes les données qu'on a, c'est une pêche à pied avec des gens qui connaissent les coefficients de marée et qui ne prennent aucun risque. Donc on ne va pas avoir de pêche à leur mot. Et donc, en fait, toute l'exploitation de leurs ressources, justement, c'est pour ça aussi que le projet est né, c'est je ne mets pas les pieds dans l'eau. Donc j'attends que la mer rejette des éléments, donc dans les laisses de mer, et également j'attends que la mer se retire pour pouvoir ramasser mes coquillages. Ça, c'est assez intéressant de voir cette relation avec cette partie du littoral. Les populations sont sur le rythme de la marée, elles ne vont pas chercher plus loin et ils ont ce qu'il faut. Et ouais. Les mollusques ont pu aussi être utilisés donc dans toute leur diversité, dans tout ce qu'ils apportent. Donc il y a la partie vivante qui va être utilisée, donc l'animal lui-même qui va être utilisé en tant qu'aliment. Il a pu être utilisé dès la préhistoire, on voit qu'il a été consommé. Et c'est une consommation qui est très très importante sur les îles jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, on a une consommation qui va se limiter mais qui reste prégnante. Pour les populations insulaires, donc ça va être une activité quasiment quotidienne pour ces populations. Également, quand on va voir le début de l'élevage, très rapidement, il a fallu donner à manger à certains animaux comme les cochons qui sont omnivores. Donc là, les coquillages vont aussi rentrer dans leur alimentation, mais aussi on va utiliser le squelette du coquillage. En fait, la coquille elle-même va être utilisée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les travaux en archéologie, on voit que les coquilles qui vont être mangées ne vont pas être recyclées. Donc ça va participer à deux activités bien différentes, d'où l'importance en fait des activités qui sont liées au ramassage en laisse de mer, parce qu'en fait on voit que dès la préhistoire c'est une activité qui est à part entière. Donc les coquilles vont être utilisées pour se décorer, pour décorer aussi des objets, mais elles vont être aussi utilisées, je pense, donc pour des périodes plus récentes. Grâce aux témoignages auprès de populations, on voit que lorsqu'on a des processions religieuses comme la fête Dieu, qui est vraiment une des fêtes de l'année sur les îles, on va pouvoir décorer en fait le sol en fait en utilisant les colorations de la couleur finalement de ces coquilles. Également, la coquille est aussi utilisée en tant qu'outil. Hein, et une des spécificités des digues, c'est que ces coquillages vont aussi être utilisés pendant la protohistoire en tant que colorant. Donc là, c'est une partie de l'animal qui va donner de la coloration pourpre. Donc on voit que c'est vraiment une utilisation qui est multiple. Alors après, pour les populations actuelles, bien sûr, ça va être donné aux poules pour aider à concevoir leurs œufs. Et on voit finalement que l'île est composée d'amas coquillés, en fait, à la fois préhistoriques, mais très récents, puisque les populations ont rejeté au pied de leur maison aussi des coquilles. Le pousse-pied, il a été observé pour la première fois en archéologie en 2018 le long du littoral atlantique français. On ne l'avait pas identifié avant. Donc on voit que pendant l'âge du fer, les populations consomment du pousse-pied. On n'en a pas, par exemple, pour des populations du mésolithique. Alors, est-ce que c'est parce que c'était dangereux ? C'est possible que la notion de dangerosité est intervenue sur l'exploitation de la ressource. Et on voit que des populations donc extérieures, par exemple le pousse-pied, c'est une ressource qui est très prisée donc en Espagne. Hein, pour eux, c'est du caviar. Et du coup, il y a du braconnage qui va se faire en fait sur Edic, tout simplement pour ramasser le plus possible de pousse-pieds, mais dans une vision à très très court terme de l'activité. Alors ça sera intéressant justement dans le cadre du projet, d'interroger les populations d'Edic pour savoir si eux-mêmes pêchent le pousse-pied, s'ils l'ont exploité, et si par hasard ils ont cédé à la tentation de le vendre à l'extérieur pour pouvoir avoir une manne financière, pour aussi survivre aussi. Hein.
C'était Les ressources de l'Estran en Bretagne Sud, premier épisode. Avec Catherine Dupont, archéologue, directrice de recherche au CNRS et co-responsable du projet Terre des Îles. Et Jeannette Blanchet, la doyenne de l'île d'Edic. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne.